Ce n'est un secret pour personne. Si l'Auvergne a de multiples atouts que nous citions pas plus tard que la semaine dernière dans notre podcast consacré à la marque Auvergne, eh bien notre territoire est quand même malheureusement connu pour son problème de mobilité. Aujourd'hui, l'Auvergne est devenue un carrefour autoroutier quasiment incontournable entre Paris et Montpellier, Lyon et Bordeaux, mais sur l'offre ferroviaire et aérienne, il y a encore du boulot. C'est en tout cas ce que clame et réclame Objectif Capital que nous recevons dans nos studios aujourd'hui. Bonjour Claude Barbin et Samuel Évrard.
Bonjour Jonathan.
Bonjour Jonathan.
Merci d'être sur RVA avec nous. Vous êtes tous les deux membres d'Objectif Capital, une association créée en 2018 sous l'impulsion d'acteurs publics et privés de la région clermontoise. Le mot d'ordre, si on doit le résumer, mais vous allez préciser davantage la chose, c'est mieux relier Paris de Clermont.
Cette association a été créée principalement d'abord par le monde privé. C'est-à-dire ce sont des entreprises autour de la Chambre de commerce qui ont décidé de créer cette association, Objectif Capital, et c'est intéressant de dire capital avec un S. Parce qu'en définitive, il y a l'objectif de rejoindre Paris, mais il y a aussi l'objectif de rejoindre une capitale régionale qui est Lyon. Quand je dis privé, c'est que des entreprises. Je citerai Michelin, je citerai Limagrain, je citerai TA, je citerai tout le conglomérat des entreprises qui sont à la CPME et au MEDEF. Et cette dynamique économique a été rejointe en soutien par le monde politique.
Là, vous avez cité de grosses entreprises, mais les petites, moyennes entreprises sont tout autant concernées.
Affirmatif. Et donc, nous sommes véritablement sur une dynamique privée. Et nous avons souhaité faire en sorte d'accueillir le monde politique, à la fois nos sénateurs, à la fois nos députés, à la fois nos présidents de Comcom, à la fois notre président de métropole, pour soutenir cette ambition économique. Et ce que cette association a souhaité, avec son président Patrick Wolf, j'ai le bonheur d'avoir deux titres dans cette dynamique, c'est à la fois d'être le trésorier de cette association, mais également d'être président de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole, et de faire en sorte, dès 2018, d'améliorer la distance, le trajet Clermont-Paris. Et en 2018, nous avions un objectif, ce que nous appelons l'étape numéro 1, c'est-à-dire de faire en sorte que nous retravaillions les voies sur lesquelles circulent les trains et de faire en sorte que les machines qui circulent soient modernisées.
Samuel Évrard, d'où vient votre engagement personnel pour Objectif Capital ? Vous étiez un utilisateur de la ligne ?
Alors j'étais un utilisateur de la ligne et si vous me permettez, vous avez mentionné Paris-Clermont, j'ai envie de mentionner plutôt Clermont-Paris. Parce qu'en fait, la dynamique de notre région, c'est de créer une attractivité de cette région, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue culturel. Vous savez qu'on est en train de défendre la capitale européenne de la culture pour 2028 et tout ça participe avec des moyens structurants de permettre cette attractivité. Si vous voyagez de Clermont à Paris en plus de 3h ou 3h30, évidemment, vous ne facilitez pas dans le match retour, dans le sens retour, cette dynamique de permettre d'accéder rapidement à la capitale auvergnate, mais aussi à toute la région. Et puis, pour répondre à votre question, mon engagement est assez récent au sein de l'association, puisque je l'ai rejointe il y a un peu plus d'un mois, et en tant que secrétaire général, mais pour justement animer, co-animer aussi et mieux faire connaître nos actions pour toucher l'ensemble des gouvernants et faciliter également les budgets qui doivent nous être alloués pour la seconde phase qu'a évoqué Claude sur la partie modernisation ferroviaire.
Alors, je vais vous laisser le temps de synthétiser la situation. Précisément aujourd'hui, qu'est-ce qui coince ?
L'étape 1, c'était de faire en sorte que l'État retravaille les voies, mettre les budgets, parce que il avait, pendant toutes les périodes en amont de cela, on a fait du tout TGV. Et on a oublié les intercités.
Les voies sont dans quelle situation ? Trop vieillissantes ? Elles ne supportent plus aujourd'hui
Exactement. Vous avez raison de dire ça. En 2018, le constat, c'était de dire que les voies n'étaient plus en capacité à supporter l'accélération des machines et que les machines étaient épuisées. Ça veut donc dire que, obligatoirement, les conducteurs de machines devaient rouler plus lentement et on a augmenté le temps de trajet. Donc l'objectif de l'étape 1, c'était de faire en sorte que l'État fasse le travail nécessaire sur les voies, ce qui est en train d'être fait, et qu'on fabrique de nouvelles rames, ce qui est en train d'être fait. Ça, c'est l'étape 1 qui est réussie. Voilà, nous allons avoir en 2025 une régénération et une modernisation des voies et nous allons avoir de nouvelles rames, c'est-à-dire de nouvelles locomotives, de nouveaux wagons. Les wagons sont en train d'être fabriqués. Les tests de vitesse vont avoir lieu en Tchécoslovaquie en ce moment, juillet, août, septembre. Nous irons les voir en Tchécoslovaquie. Ça veut donc dire que ces rames, elles sont en finalisation de fabrication. Mais ça, c'est l'étape 1.
C'est la concrétisation de ce qu'avait annoncé Clément Beaune, le ministre des Transports, notamment février dernier. C'est 1,2 milliard mis sur la ligne Clermont-Paris.
Ça a été réalisé, oui. Maintenant, nous sommes sur l'étape 2, c'est-à-dire de faire en sorte que dans les 100 milliards qu'a annoncé Madame notre Premier ministre, c'est de faire en sorte que le Clermont-Paris et également le Paris-Limoges-Toulouse soient dedans. C'est-à-dire deux intercités. Nous nous sommes alliés avec Limoges pour avoir à la fois la modernisation et à la fois des nouvelles rames. Et dans l'étape 2, nous nous battons pour que nous soyons dans les 100 milliards d'euros de Madame Borne dédiés aux ferroviaires pour faire en sorte... Nous avons réussi à avoir 3 heures. Maintenant, nous voulons descendre à 2,30. Et ça va se décider durant le deuxième semestre 2023. Il est absolument nécessaire que nous soyons dans ces 100 milliards pour descendre en dessous des 3 heures.
Avec Limoges, vous avez le sentiment d'être un peu les oubliés du réseau ferroviaire français ?
Je ne sais pas si on peut mentionner les oubliés, mais en tout cas, ce qu'a mentionné Claude, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que sur le plan 100 milliards développé, la priorité n'est pas forcément donnée aussi concrètement aux régions que ça avait été mentionné. Je reprends les mots exacts. Davantage de trains, une meilleure ponctualité, des temps de parcours moins longs. C'est ce qu'avait mentionné la Première ministre. La stratégie doit bénéficier à tous les Français. Ben oui, si on veut parler à tous les Français, il faut qu'on parle aux régions. Et nous faisons partie de ces régions qui, effectivement, n'ont pas été toujours prises en compte dans les améliorations du schéma ferroviaire. Et vous l'avez mentionné également, peut-être du schéma aérien. Nous avons la chance d'avoir à la fois une activité ferroviaire, routière et aérienne. Il faut pouvoir protéger, entre guillemets, les trois axes. Et j'ai envie de dire l'intermodalité dans son ensemble, qui va bien plus loin que ces trois modes de transport.
Je cite votre président, le président d'Objectif Capital, Patrick Wolf, qui disait « Donnons-nous les moyens de développer tout le potentiel de ce territoire qu'est l'Auvergne. Est-ce que les moyens, justement, sont suffisamment mis sur la table ?»
Il est évident que nous avons vécu la régionalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Auvergne est venue rejoindre Auvergne-Rhône-Alpes.
Vous a fait du mal, ça ?
Les premiers mois, la première année, ça a été un choc. Ça a été un choc économique, ça a été un choc culturel. Et à la sortie, nous devons reconnaître que d'avoir rejoint une grande région comme Rhône-Alpes, et quand nous en tirons les conséquences aujourd'hui au bout de 6 ans, eh ben nous pouvons considérer que l'Auvergne a été plutôt positif pour ce territoire. À nous de continuer à apporter notre énergie à Auvergne-Rhône-Alpes, et de vous dire également que de ces 6 années qui viennent de passer, une équipe de rugby qui reste à son bon niveau, une équipe de football qui s'est trouvée à un excellent niveau, la reconnaissance de l'UNESCO. Et aujourd'hui, on l'a évoqué avec Samuel, nous sommes dans la deuxième phase pour obtenir la candidature de Clermont-Ferrand, Massif Central, capitale européenne de la culture 2028.
En quoi tout ce que vous venez de citer se relie au sujet du ferroviaire ?
C'est tout lié. 1, visibilité. Pour l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Attractivité pour l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes et pour la vision nationale et européenne. Et de se dire également comment un gouvernement peut oublier un territoire qui est en train d'exploser au niveau économique.
Samuel Evrard, je vais vous poser la question la plus naïve possible. Pourquoi aujourd'hui c'est si essentiel de se connecter à Paris ? À l'heure où on prône la décentralisation, où on essaye justement de déconstruire cette grosse toile d'araignée qu'on a mis en place pendant des dizaines d'années, pourquoi aujourd'hui, pour vous, c'est une évidence, une essentialité ?
C'est d'autant plus essentiel que, vous l'avez dit, on relie Clermont à Paris, mais on relie Paris à Clermont également, et on relie Paris à l'Auvergne. Je voulais juste donner 2 chiffres, les 2 lignes, vous avez mentionné effectivement l'effort qui est fait sur la partie Limoges-Orléans-Toulouse et Clermont-Ferrand-Paris. C'est à peu près aujourd'hui 1/4 du territoire national qui est desservi et 10 millions d'habitants avec des correspondances. Donc ça n'est pas, je dirais, servir la capitale, mais c'est simplement irriguer la métropole au sens large et l'hexagone, le pays, au travers de ces trajets facilités. Donc pour nous, c'est essentiel effectivement d'être une vitrine avec la dynamique de l'Auvergne au sens large, mais également de pouvoir accéder non seulement à la France, mais également à d'autres pays au travers de ces trajets-là. Plus ils seront optimisés, plus cela permettra aussi de partir vers d'autres horizons.
Les problèmes du ferroviaire et de l'aérien, on va y venir aussi, que connaît aujourd'hui l'Auvergne, s'adresse un mur pour les entreprises, un mur économique, un mur d'attractivité.
En tout cas, c'est un vrai frein à certains développements. Je peux parler de l'entreprise dans laquelle je travaille, Michelin. Ce sont aujourd'hui entre 30 et 35 000 personnes qui voyagent chaque année et qui sont amenées à se déplacer vers d'autres horizons. Donc évidemment, tout ce qui va favoriser un raccourcissement du délai de trajet va permettre effectivement d'accéder plus rapidement à d'autres métropoles.
Alors je vais vous citer quelques chiffres qui vont vous parler, Claude Barbin et Samuel Évrard. Vendredi 9 juin, sur le Paris-Clermont, 2h30 de retard. Jeudi 1er juin, 3h30 de retard. Mercredi 31 mai, environ 2h de retard. Mardi 18 avril, 2h30. 3 jours avant, samedi 15 avril, jusqu'à 4h de retard. Et on va même au 23 juillet 2022, 17h de retard. Est-ce qu'avant d'essayer de réduire la connexion entre Paris et Clermont à 3h, voire 2h30, on va y venir, est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet déjà à maîtriser, à savoir l'arrêt de ces retards, avoir une ligne déjà qui fonctionne?
Nous sommes dans une phase où nous avons fait le constat que ça ne marchait pas. Et depuis 2018, nous sommes dans l'amélioration. J'ai envie de dire que la promesse, le bonheur que nous allons vivre tous les trois, Jonathan, Samuel et Claude, c'est de se dire que dès 2025, nous circulerons dans de bonnes conditions, dans des machines, sur des machines, dans des rames modernes et sur des voies modernes. En attendant, la SNCF va épuiser son matériel roulant et il y a une belle promesse, mais l'inconvénient, c'est que tous ces retards que nous vivons sont liés aux travaux et sont liés à ces rames qui sont fatiguées. Cependant, vous avez entièrement raison de se dire que chaque fois qu'on prend le train, eh bien, on a toujours cette crainte et il n'y a pas un cantalien, il n'y a pas un altiligérien, il n'y a pas un puy-d'Aumois, un bourbonnais qui n'a pas une aventure abominable à vous raconter sur ce train. Oui, c'est catastrophique, mais en définitive, si en 2018, Objectif Capital n'avait pas fait le job, on serait en train de se dire qu'aujourd'hui, la situation est toujours terrible, mais il n'y a pas d'espoir. En définitive, aujourd'hui, l'espoir, on le sait, c'est 2025. L'intérêt du train, c'est... Alors, d'abord, c'est on voyage avec ses concitoyens, c'est un côté liant qui est très important. Ensuite, vous partez du centre d'une ville et vous arrivez au centre d'une autre. Nous desservons Rion, nous desservons Vichy, nous desservons Moulins, nous desservons Nevers. Et donc, on va au centre des villes. Et puis, vis-à-vis de l'empreinte carbone, vous imaginez l'intérêt. Aujourd'hui, je reconnais que si on veut absolument, dans la journée, ne pas rater son rendez-vous, eh bien, on va certainement prendre la voiture. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est-à-dire que vous parlez des nouvelles générations, vous parlez des générations d'aujourd'hui, elles souhaitent que nous ayons un regard plus attentif sur la phase carbone.
On a un vieux loup de mer ici en Auvergne qui s'appelle le TGV. Est-ce qu'un jour on aura le TGV en Auvergne ?
Jamais. Nous n'aurons jamais le TGV. Alors, c'est coquin ce que je veux dire. Parce qu'on n'a pas intérêt à l'avoir. Aujourd'hui, 2025, soyons clairs. Nous aurons un train qui sera plus moderne que le TGV. La capacité d'accélération des rames feront en sorte que ça soit un TGV ou que ça soit cette nouvelle rame, on sera dans la même configuration. Et pourquoi on n'a pas eu de TGV ? Tout simplement, il y a aussi une vision commerciale que un président de chambre doit prendre en compte et expliquer aux entreprises. C'est que quand la SNCF analyse le nombre de passagers qu'elle peut embarquer sur un Paris-Marseille, elle va irriguer un ensemble de villes. Alors que nous, au regard du massif central, cette chance extraordinaire, ce poumon d'oxygène que nous avons, qui fait la fierté de notre pays, eh bien, franchir après Clermont pour descendre à Montpellier, c'est des projets d'infrastructures extraordinairement chers. Aujourd'hui, nous sommes dans une recherche de ne pas abîmer ce massif central, de ne pas le repercer, mais de faire en sorte de préserver. C'est une demande des générations d'aujourd'hui.
Autre question, autre sujet. Les trains qui sont en partance de Clermont-Ferrand aujourd'hui arrivent en gare de Paris-Bercy. En discutant avec des Parisiens, même certains d'entre eux ne connaissent pas cette gare à Paris. Est-ce que vous militez pour un changement de gare pour arriver sur des sites qui sont plus gros, plus imposant et peut-être plus attractif aussi?
Alors, elle est très intéressante, votre question. Elle est très, très intéressante. Parce que Nous avons tous, les Clermontois et les Altiligériens, les Bourbonnais, les Cantaliens, on a tous eu ce grand bonheur d'arriver à la gare de Lyon. La gare de Lyon, avec son architecture, avec ses peintures, avec son foisonnement de vie, avec cette dispatch sur Paris absolument extraordinaire. Et puis un jour, on nous a dit, il n'y a que les TGV qui vont arriver, gare de Lyon, et vous allez arriver à Bercy. Et bien entendu, je prends le train toutes les semaines et je me suis dit, ben c'est une vraie brutalité en termes d'image, en termes de ressenti. Et puis, à la sortie, on s'aperçoit de quoi ? C'est que la gare de Bercy, elle porte le nom de gare de Bercy...
Bourgogne, Pays d'Auvergne, me semble-t-il, ou quelque
exactement.
Chose comme ça.
J'ai presque envie de dire qu'un jour, elle s'appellera Pays d'Auvergne, toute seule. Et le grand avantage qu'il y a, c'est que vous arrivez dans cette gare, immédiatement, vous êtes en accès sur le métro, sans passer des heures à galérer dans la gare de Lyon. Et il y a eu de vrais travaux qui ont été faits pour un accès au métro quasiment immédiat. Donc aujourd'hui, vous sortez de la gare, vous rentrez immédiatement dans le métro et Paris est à vous. Hein, et j'ai envie de dire, je pourrais même vous tenter, j'ai deux amours, mon pays et Paris. Eh bien, je peux vous dire que si en 2019, cette gare n'était pas fonctionnelle, opérationnelle, aujourd'hui, elle est devenue. Et je pense qu'on serait très déçus de revenir sur la gare de Lyon. Maintenant, nous avons certainement à faire en sorte de retravailler l'image de cette gare. Mais en termes d'ergonomie, en termes de liaison, sortir de la gare, prendre un taxi ou prendre le métro pour circuler dans Paris, c'est le rêve, on est dans le métro en moins de 6 minutes.
Donc, vous avez fait de l'inconvénient un avantage.
Nous avons su nous adapter.
Les usagers et les politiques.
Nous avons improvisé, nous nous sommes adaptés et à un moment donné, eh bien, nous avons fait en sorte avec la SNCF, qui est notre partenaire, de faire en sorte que cette gare soit ergonomique.
Claude Barbin, Samuel Évrard, j'aimerais qu'on évoque le sujet de l'aérien aussi, parce qu'Objectif Capital prend beaucoup position sur le ferroviaire, sur cette ligne Clermont-Paris, mais aussi cet objectif Clermont-Paris, c'est en avion. Conscient des contraintes économiques liées à la crise du Covid-19, les usagers professionnels veulent un programme de vol plus proche de leurs attentes, c'est-à-dire. Ça veut dire quoi, ça ? Cette phrase que j'ai relevée sur le site d'Objectif Capital, hein, j'ai rien inventé.
Oui, mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'effectivement, travailler sur l'aérien, c'est maintenir encore une fois la capacité d'attractivité de notre région, parce que comme l'a dit Claude, la solution aujourd'hui, c'est souvent prendre sa voiture. Donc, il faut décarboner l'aérien, et notre action vise évidemment à travailler sur l'écologique aussi, et donc à privilégier d'abord le train avant l'avion. L'avion est en train de travailler fortement, parce qu'il ne va pas s'arrêter demain, et notre problématique, elle est de plusieurs niveaux. Elle est d'abord du nombre et de la fréquence des vols. Elle est aussi de l'horaire des vols. Les personnes qui se déplacent de la région Auvergne vers la capitale ou vers d'autres d'ailleurs villes ont besoin d'un certain nombre de créneaux. Donc la plupart des gens qui veulent un vol vont essayer de partir vers 6h ou 7h du matin et si possible revenir le soir. Donc la complexité aujourd'hui, c'est d'offrir 4 vols par jour, ce qui n'est pas le cas, et de réintroduire ce vol Clermont-Ferrand-Orly qui permet aussi toute une desserte de l'autre partie, je dirais, de la capitale qu'a évoqué Claude pour le train sur Bercy, qui est tout l'Ouest. Et l'Ouest irrigue également d'autres vols vers d'autres destinations internationales. Donc notre volonté, c'est de réintroduire au plus juste des besoins, pour ne pas avoir des fréquences anormales et une pollution excessive, c'est d'avoir le juste nombre de vols qui permettent à la fois de servir les intérêts des entreprises dont les employés se déplacent, sur l'Ouest ou sur Roissy, c'est-à-dire 4 vols par jour avec une amplitude qui serait de 7h du matin jusqu'à 22h.
Parce qu'il y aurait prépondérance sur Roissy, mais avec maintien des vols sur Orly, l'idée c'est de pouvoir...
Absolument, c'est d'avoir à minima un vol sur Orly et d'avoir les autres vols sur Roissy.
Vous voulez une fréquentation au plus juste des besoins, mais est-ce que c'est réaliste aujourd'hui ? Est-ce qu'avec 4 vols par jour, on remplit les avions entre Clermont et Paris ?
Ben c'est toute l'étude qui est menée pour laquelle justement nous œuvrons et pour laquelle dans des temps très courts d'ailleurs nous allons avoir d'autres rencontres. Il est un peu trop tôt pour parler des acteurs qui seraient mis au jeu, mais la complexité aujourd'hui, c'est d'arriver effectivement à servir dans un temps court, c'est-à-dire à horizon début 2024, de réintroduire effectivement ce vol Clermont-Orly qui nous manque cruellement après la période pandémique qui n'a pas facilité la remise à niveau. Et de permettre finalement d'irriguer à partir de Clermont-Ferrand différentes villes et principalement effectivement la capitale.
Quelle est la réponse d'Air France aujourd'hui à votre demande ? Quel lien vous entretenez justement avec le domaine aérien ?
Sur le vol Clermont-Roissy, on peut dire aujourd'hui que ce vol-là est reparti sans aucune difficulté et on peut même se dire que on pourrait rajouter une liaison à, donc pour vous dire que nous sommes revenus dans des quotas qui étaient ceux que d'avant Covid. En ce qui concerne le Clermont-Orly, Air France ne souhaite pas opérer cette ligne-là. Et aujourd'hui, nous travaillons à mesurer notre capacité à remplir les avions, à faire en sorte d'adapter des avions qui correspondent à la clientèle, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir de gros avions, mais des avions qui correspondent à la demande. Et nous avons de fortes chances de travailler avec des compagnies privées qui sont en partenariat avec Air France, qui pourraient être Amelia, qui pourraient être Chalair, avec lesquels nous avons des vraies phases de travail. Et aujourd'hui, c'est un véritable besoin. J'ai envie de dire que une entreprise, elle a différents besoins, que ça soit une grande entreprise ou des TPE ou des PME ou même une entreprise de 3-4 personnes, tout simplement qu'il y a des moments où elle a besoin de beaucoup de nos PME, de notre tissu de TPE-PME exporte et donc ont besoin d'aller à Roissy pour partir all over the world. Et puis, il y a des grandes et petites entreprises qui, dans la journée, pour des contrats particuliers, ont besoin de faire d'un aller-retour rapide sur Paris. Et puis, il y a toujours ces entreprises qui ont des besoins de faire un Clermont-Paris en train. Donc, il faut s'adapter à cette demande et nous avons besoin de cette offre. Là, nous vous parlons de Clermont-Paris. Mais nous avons aussi, grâce à toute cette force et à cette attractivité, à ce potentiel économique qui est en train d'exploser sur notre territoire auvergnat, des gens qui veulent venir nous voir. Aussi bien de l'artiste, aussi bien du sportif, aussi bien de l'économique et l'image d'infrastructures qui sont pas à la hauteur nous dessert extraordinairement pour le challenge économique touristique aussi.
J'entends l'argument économique et l'argument d'attractivité, mais vous parliez tout à l'heure de l'impact écologique, donc je m'engouffre dans cette brèche. Est-ce que c'est cohérent aujourd'hui de miser sur l'aérien? Pourquoi ne pas tout mettre sur le train que vous souhaitez développer aussi? On le rappelle, hein, si on donne les chiffres de l'Agence de la transition écologique, le train, c'est le transport le plus écologique et le moins polluant qui soit. Est-ce que c'est encore cohérent aujourd'hui de militer pour l'avion?
Le constat que vous faites, c'est la réalité de ce que nous vivons. Mais aujourd'hui, le train n'est pas au rendez-vous. D'accord. Et nous sommes en train de se dire que avant 2025, il se passera rien. Donc, dans tous les cas, la liaison d'avion est absolument nécessaire. Sinon, c'est la voiture. Voilà, c'est la voiture individuelle.
Donc, l'avion ne serait pas forcément une solution à très long terme. Ça peut être une solution.
Regardons ce qui se passe sur le territoire national. Quand il y a une liaison rapide entre une capitale régionale et la capitale nationale, souvent, eh bien, la ligne d'avion n'a plus d'intérêt. D'autant que la loi fait en sorte que quand on est à moins de 2h30 d'un lieu, l'avion, nous ne sommes absolument pas dans cette configuration. Donc, pour le moment, c'est absolument nécessaire de faire en sorte d'avoir cette dynamique. Et puis, aussi, par rapport à qu'est-ce qu'il y a sur un territoire. Quand nous avons la chance d'avoir sur ce territoire des grands accélérateurs, des grandes entreprises, combien y a-t-il d'entreprises du CAC 40 qui sont en région? En France, il y en a deux. Et il se trouve que il y en a une qui est sur notre territoire. Et je ne parle pas de l'Imagrin. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, le monde a besoin de venir ici. Et le monde, c'est 150 pays qui viennent commercer avec nous et qui créent la richesse de ce territoire. Voilà, donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte.
Vous souhaitiez réagir?
Je voulais juste rajouter qu'en fait, la mobilité, c'est pas 2023. La mobilité existe depuis plus d'un siècle et cette mobilité ne va pas s'arrêter. Donc en fait, comme l'a dit Claude, juguler un mode de transport, c'est sans doute aujourd'hui, et vous l'avez dit d'ailleurs sur la possibilité du transitoire de l'aérien, aujourd'hui, c'est offrir un maximum de mobilité avec un S pour pouvoir, et c'est d'ailleurs le titre d'objectif capital avec un S, c'est de ne pas servir que les intérêts de certains, c'est essayer de servir les intérêts de tout le monde. Et l'intermodalité qu'on évoque, puisqu'on l'évoque aussi dans le cadre d'Inspire pour par exemple la métropole, bien c'est de servir aujourd'hui tous les intérêts et toutes les attentes. Les jeunes générations n'ont pas nos attentes, nous ne sommes pas tout à fait dans cette catégorie d'âge-là, et justement il faut anticiper. Et lorsque vous faites des enquêtes, vous apercevez aussi qu'aujourd'hui les jeunes prennent l'avion. Donc il faut permettre d'offrir plusieurs solutions qui, selon l'évolution de chaque solution, va permettre effectivement de répondre à chacun. Et la complexité, c'est que tout ça se fait dans un temps assez long, c'est vrai. On a parlé de la régénération pour le train, on a parlé de la modernisation. Ce sont des ambitions à 2025, on l'a dit, c'est-à-dire dans 2 ans, et ce sont des ambitions à 2030 en ce qui concerne la modernisation du ferroviaire. Donc, ces offres de modalités, de mobilité, pardon, doivent nous permettre effectivement d'adapter les flux et les attentes, et ainsi de servir mieux cette mobilité dont tout le monde parle, tout en respectant effectivement la nécessité de lutter contre le changement climatique.
Claude Urbain.
Juste un petit mot pour se projeter dans notre avenir, hein, que je souhaite vertueux, Samuel et moi on est d'accord pour cette logique avec vous, Jonathan, et de se dire aussi, pour avoir travaillé avec les différents aéroports de France, et entre autres le nôtre, c'est l'avion hydrogène. L'avion électrique, ça veut donc dire que l'avion n'est surtout pas mort, mais il y aura obligatoirement une évolution, comme l'ensemble des transports. Aujourd'hui, il y a des avions électriques, sur des courtes distances, sur du 2 heures, voilà. Donc, aujourd'hui, ce mode de transport est aussi dans cette évolution, et ça serait une gageure de dire que l'avion va disparaître, parce que il est aussi en pleine évolution. Les aéroports sont en train d'être décarbonés, et il y a une vraie réflexion là-dessus. Donc aujourd'hui, nous sommes en marche, ou nous sommes en vol.
C'est une belle métaphore. Vous vous projetez dans l'avenir. Moi, je me projette dans l'avenir de l'association Objectif Capital. Là, dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce que vous allez faire, mettre en place? Quel est peut-être, vous, votre calendrier à l'échelle de l'association pour les différents objectifs pour lesquels vous militez?
C'est de faire en sorte que nous soyons dans les 100 milliards d'euros que Madame la Première Ministre a mis pour l'amélioration du ferroviaire. C'est l'objectif principal que nous avons sur ce deuxième semestre, et nous savons que dès septembre-octobre, nous devons être avec nos amis Limougeaux sur les 2 intercités de France que sont le Clermont-Paris et le Paris-Limoges-Toulouse. Nous devons être dans ces 100 milliards d'euros, et c'est de faire en sorte d'avoir des horaires vertueux, une organisation vertueuse sur l'aérien, à la fois sur la remise en marche au début 2024 du Clermont-Orly et peut-être d'une augmentation du Roissy-Paris, en attendant que la dynamique ferroviaire réponde à toutes nos attentes.
Donc on se donne rendez-vous dans 4 mois pour les premières réponses.
Eh bien, on espère qu'effectivement, si vous nous invitez à nouveau à ce micro, on pourra vous donner de bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, en fait, tout le monde y concourt, bien sûr, en adhérant à Objectif Capital, mais pas seulement, en étant acteur au quotidien, et vous l'avez mentionné pour vous-même en tant que voyageur, c'est de pouvoir exprimer à la fois ses attentes, mais aussi effectivement ses intensifications, de façon à faire bouger les choses, et tout ça pour permettre, encore une fois, une meilleure mobilité pour tout le monde et l'attractivité de notre région concrètement.
Et on retrouvera plus d'infos et l'ensemble des objectifs listés sur le site internet d'Objectif Capital. Merci beaucoup Claude Barbin et Samuel Evrard d'avoir été avec nous.
Merci Jonathan, merci.
Merci Jonathan.